Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, nos experts vous délivrent des astuces pour bien cuisiner au quotidien et pendant les fêtes de fin d'année. Nous réviserons quelques bases qui passent notamment par une bonne organisation et le choix de bons produits, des conseils pour réussir les préparations, les cuissons, le dressage, et puis des explications scientifiques pour mieux comprendre le bien fondé de ces astuces culinaires. Nous verrons notamment comment réussir sa dinde ou son chapon, sa raclette et sa fondue savoyarde, épater la galerie avec un soufflé bien gonflé, sublimer ces sablés de Noël, et puis surtout, nous attendons vos astuces, mais également vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale. La journaliste Julie Andrieux, le chef Grégory Cohen et le professeur Raphaël Aumont sont en studio pour vous répondre. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Alors là aussi, nous allons passer un petit moment fastidieux, c'est-à-dire le moment de monter les blancs.
Voilà l'instrument qu'adorent les preneurs de son.
Ah oui, ça.
La télévision française.
Au début, on les prend dans le fouet. Alors petit à petit, et vous, on les souffle, on fait rentrer de l'air à l'intérieur de ces blancs. À un moment donné, ils vont être assez montés, je vais pouvoir les prendre plus violemment. Alors là, voyez-vous.
Silence ! Vous n'avez jamais fait partie d'un orchestre ?
Hey, on va pas tarder.
Vous êtes doué.
Quel plaisir d'entendre le chef Raymond Oliver avec Catherine Langer dans Art et Magie de la Cuisine. Bonjour Julie Andrieux.
Bonjour Adrien.
Je suis ravi de vous accueillir.
Moi
vous êtes
aussi.
Auteur de nombreux livres de cuisine. Vous produisez et animez les carnets de Julie sur France 3 et vous publiez chez Robert Laffont, A comme astuce, mon abécédaire de la cuisine. Bonjour Raphaël Aumont.
Bonjour.
Chercheur en physico-chimie des matériaux, professeur à l'université Paris-Sud à Orsay. Vous publiez chez Dunographique avec le chef Thierry Marx et le graphiste Francky Alarcon, Les Aventuriers de la Cuisine, une BD en partenariat avec l'exposition Banquet, actuellement à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, une exposition pour toute la famille. Hein.
Exactement, c'est vraiment un projet immersion des enfants, des parents, et on apprend le pourquoi de la cuisine, le comment, et on plonge après dans un grand spectacle, un banquet, un truc assez magique, et on apprend à faire justement, comme le tout à l'heure là, comme on vient d'entendre, agiter doucement et tout ça avec des grands partenariats avec Comme Ferrandi, etc. Donc c'est sympa.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Chef du restaurant éphémère Temporalité à Paris, complet, je crois savoir, jusqu'à dimanche, en attendant l'ouverture du Père Joseph à Ruelle Malmaison. Vous intervenez régulièrement dans cette émission. Grégory Cohen, l'une des bases fondamentales en cuisine, c'est de bien organiser sa cuisine. On a rarement envie de cuisiner quand règne le bazar.
Oui, c'est pas faux Ali Rébéi. En fait, en cuisine professionnelle, on appelle ça la mise en place. Oui. On essaie de faire nos peser en amont avant une recette, on essaie de nettoyer. Puis alors, quand on est en cuisine familiale, moi je conseille une petite astuce, on prend un saladier, on se le met sur notre plan de travail et ça va devenir notre poubelle de table.
Ouais.
Parce que très souvent, on se retrouve avec des épluchures, des choses comme ça, et on ne sait pas trop quoi en faire. Pour les épluchures, petite astuce, hein, on le sait, on s'en rappelle, il faut les conserver, on les met dans un sac congélation, on les met au congélateur et on les récupère après pour faire un petit bouillon de légumes par exemple.
Moi j'ai un côté Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives, c'est que je nettoie constamment quand je fais la cuisine, je veux que quand j'ai terminé mes préparations, tout soit propre.
Vous pouvez venir dans ma cuisine, oui.
C'est
très utile, quelqu'un qui nettoie derrière.
C'est un peu
vous.
Le bazar dans votre cuisine.
Oui, non, j'écoutais Grégory, c'est vrai que c'est très important la mise en place, alors chez les amateurs, les ménagères comme disait justement Raymond Oliver, on a moins cette nécessité-là, mais enfin l'organisation est quand même indispensable. Mon papa disait, pour la poubelle de table, comme un escarbilleur, j'adore ce mot-là.
Ah, c'est pas mal, escarbilleur.
Escarbilleur, j'ai jamais vérifié si c'était à propos, mais en tout cas j'aime bien le mot.
A-t-on vraiment besoin de 10 000 ustensiles et appareils pour bien cuisiner, Julie Andrieux ?
Alors, bonne question. J'ai tendance à cuisiner avec une bonne planche et un bon couteau.
Ouais.
Maintenant, si je rentre dans le détail, c'est vrai que si on ouvre mes placards, il y a quand même pas mal de choses, notamment un robot ménager, un robot hachoir. Alors, aussi le fameux, enfin on ne donnera pas de marque, mais
le robot
monte,
cuiseur.
Voilà, non, cuiseur, alors ça,
non.
Je ne sais même pas comment ça marche.
Ouais.
Non, pas du tout, c'est sûrement très utile, mais enfin moi personnellement, c'est l'inverse de ce que je fais quand même. L'idée étant justement de cuisiner avec peu de choses.
Le robot
et puis les produits qu'on a. Oui, le robot qui monte les blancs en neige et qui peut le faire pendant 10 minutes, parce que par exemple, la mousse au chocolat, moi je monte blanc et jaune avec le sucre pendant 10 minutes. Mmh. C'est vrai qu'au bout de 10 minutes, on se dit, je pourrais peut-être faire quelque chose d'autre que de rester là, planté devant mes blancs. Donc ça, c'est utile. Mais en dehors de ça, finalement, tout est contournable.
Qu'est-ce que vous pensez des robots cuiseurs, justement, Grégory Cohen? Très en vogue.
Hein. Oui, très en vogue. Alors, il y a plusieurs types de robots cuiseurs. Il y a celui où on va tout mettre dedans et puis qui va cuisiner pour nous. Pourquoi pas? Ça va répondre à des attentes. Moi, je suis pas contre le progrès dans l'absolu. On est passé du fouet au batteur électrique, du batteur électrique au robot. Aujourd'hui, l'important, et pour moi, c'est toujours la même chose, c'est d'amener les gens en cuisine et de les faire cuisiner. Alors, qu'ils le fassent avec un robot cuiseur, qu'ils le fassent avec leur casserole ou avec leur poêle, au final, le résultat, il va être à peu près le même. Moi, le robot cuiseur, par exemple, en robot pâtissier, il va avoir un intérêt si j'ai envie de faire une crème anglaise, si j'ai envie de faire une crème pâtissière ou si j'ai envie de faire un sabayon, parce que je vais pouvoir le régler au degré près, ce qui est un peu plus compliqué quand on a une casserole où on va devoir faire intervenir un thermomètre pour être sûr, etc. Donc c'est ce genre d'avantage qu'on va trouver dans un robot cuiseur, a priori.
Tandis que faire une soupe, ça reste quand même très très élémentaire. On n'a pas besoin d'un robot cuiseur pour faire une soupe. Hein.
Vrai qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, je parle un bon prof, par exemple, il a juste besoin d'une craie, d'un tableau noir. J'ai plein de collègues qui se cachent derrière des PowerPoint ou des trucs, et finalement, on se dit, mais pour émouvoir les gens, juste une bonne craie, et là, on voit si on est un bon prof. Donc, je pense qu'un bon couteau, une bonne planche, c'est pratique. Alors après, où je vous rejoins, Julie Grégory, c'est qu'effectivement, il y a quand même des pour pétrir, par exemple, c'est vraiment quand même laborieux de faire une pâte brioche à la main. Et donc, pourquoi se priver de la technologie quand elle est à bon usage?
J'ai fait une brioche hier, donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Et quand on te dit il faut que la pâte se décolle de la cuve, bon bah là, avant d'arriver à faire sortir les gluten, c'est vrai que ça prend du temps.
Il y a 10 minutes de pétrissage. Et au degré près, là, il y a tout un travail à faire avec les équipementiers pour améliorer les outils, parce qu'on cuisine quasiment comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous regardez actuellement les plaques, même si c'est des plaques à 7000 watts, alors on vous vend plein d'énergie comme ça, puis on se dit, mais finalement, pour cuire un œuf, c'est 80 degrés, cuire des légumes, 82 degrés. Pourquoi on fait tout bouillir? Pourquoi on surchauffe les produits? Donc avec des outils mieux adaptés, on gagnera en énergie et on gagnera en qualité, en justesse de cuisson.
Claire Destacan, notre réalisatrice, nous demande planche en bois ou planche en plastique?
Alors en cuisine pro, on n'a plus le droit aux planches en bois. Donc on a des planches en plastique, on a des planches en plastique de couleur en même temps pour définir quand on va travailler du légume, quand on va travailler du poisson, quand on va travailler de la viande. Moi, je suis assez nostalgique du bio de boucher qui est très beau et qui est en bois.
Érodé jusqu'à la moelle.
Voilà, exactement.
Alors Raphaël Aumont, sur les trucs et astuces de cuisine, certaines relèvent de la science et d'autres n'ont pas forcément de fondement. Longtemps, j'ai mis du vinaigre blanc dans l'eau de cuisson des œufs durs, par exemple, pensant ça allait empêcher le blanc de coaguler si jamais la coquille se cassait pendant que l'eau bout. Mais ça n'a aucun fondement.
Mais non, et en fait, la cuisine, il y a tout un. Là, on pourrait passer des heures et des heures à essayer d'expliquer les 5000 astuces des chefs ou des grand-mères soi-disant bienveillantes. Le vinaigre, là, comme vous le dites, c'est quand même assez hallucinant parce que le vinaigre, c'est un acide, ça attaque la coquille, donc ça va fragiliser votre œuf pendant qu'il cuit. Et pourtant, vous essayez d'en mettre pour éviter qu'il casse ou qu'il se casse. Donc c'est du non-sens, quoi. C'est comme le sel dans l'eau qui fait augmenter la température d'ébullition, alors que déjà un œuf, ça ne cuit pas à 100 degrés. Donc si vous cuisez à 102, 103 degrés, ce sera encore pire.
Et moi, Raphaël et Thierry Marx, avec lesquels on a travaillé pendant longtemps sur France 3, m'ont appris que la pincée de sel dans les blancs d'œufs, qui est quand même un truc légendaire, c'est monument de la cuisine et de la pâtisserie, ne sert à rien.
On part du principe que, soi-disant, les protéines étaient un peu chargées électriquement. Alors le sel, comme il est chargé électriquement, ça. Donc on essaye de commencer à rendre des choses très compliquées pour monter un blanc d'œuf. Alors que si on voit l'astuce tout à l'heure qu'on a entendue par Oliver, c'est justement, ça a du sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un blanc d'œuf, mais il y a deux blancs d'œufs. Quand vous cassez un œuf, déjà vous remarquez qu'il y a un blanc très liquide et un blanc un peu visqueux. Donc il faut commencer à mélanger les deux tout doucement et ensuite vous pouvez accélérer. Et là, il n'y a plus d'histoire de sel, de je ne sais pas quoi, tourner en 8 pour que ça monte mieux. Mais c'est l'histoire, et une parenthèse, c'était vraiment un bonheur. À chaque fois, on en parle avec Thierry Marx de ces tournages avec Julie, parce que c'était justement essayer de comprendre les choses. C'est-à-dire, les recettes, elles vous disent petit 1, faites ci, petit 2, faites ça, petit 3, faites ça. Alors que si vous comprenez le pourquoi on vous dit de faire ça, et alors là, ça devient intéressant parce que vous avez des clés, et donc vous pouvez vous amuser et innover.
Grégory Cohen, est-ce que les chefs révèlent vraiment tous leurs trucs et astuces quand ils publient leurs livres ou font-ils de la rétention d'informations?
C'est magnifique ça en fait, parce que en réalité il y a alors sans balancer sur aucun chef, il y a un concept qui s'appelle le table book.
Oui, le livre de table basse.
Voilà, c'est ça, le livre de table basse qui en fait doit avoir un intérêt. Quand on parle avec des éditeurs, ils nous le confirment, hein, c'est qu'il doit être beau. Est-ce qu'il doit être efficace et est-ce qu'il doit être précis? Non. Il y a des sublimes livres, moi, que j'ai achetés où tu prends juste la photo et tu vois qu'il y a à peu près 12 ingrédients. Et quand tu lis à côté le déroulé, tu vois qu'il y a 7 ingrédients. Tu dis, c'est un peu le Où est Charlie? Et voilà. Maintenant, de plus en plus, les chefs essayent de faire des recettes et de transmettre, parce que c'est quand même dans notre ADN de base. Et même, je vais même vous dire quelque chose, Ali. En fait, avec la même recette, on peut prendre 5 personnes différentes. On va leur donner à chacun la même recette. On va mettre un chef au milieu. Si on fait après un test organoleptique, donc du goût, vous verrez que miraculeusement, il y a un tour de main et un savoir-faire qui fait que le chef va se détacher.
Raphaël Aumont.
Oui, c'est exactement ça, parce que c'est la façon d'interpréter la recette. Donc, on peut vous dire battre les blancs, mais jusqu'à quel point est-ce qu'il faut que ça graine, que ça graine pas? Il faut s'arrêter avant? Quand est-ce que je mets le sucre en 2 fois, en 3 fois? Et finalement, c'est la compréhension de la recette qui va faire la différence après avec le cuisinier.
Allez, nous allons partager quelques astuces de cuisine, Julie Andrieux. Alors, comme je suis un bec sucré, j'ai choisi de commencer par les cookies. Comment les réussir à coup sûr?
Ah, alors je vous dirais qu'il y a autant de cookies que de cuisiniers, de recettes de cookies, donc relativisons. Alors pour ce qui me concerne, déjà, prendre des ingrédients qui ont du goût, c'est idiot, mais même une farine, il peut y avoir vraiment des farines de qualité différente. Moi maintenant, c'est assez récent, mais je prends plus que des farines locales. Il y a des là j'étais avec une céréalière meunière biologique en Seine-et-Marne qui fait une farine, c'est pas la même chose, même vous pouvez la goûter crue, ça a pas le même goût. Donc déjà une bonne farine, plutôt une farine raffinée pour que les cookies soient légers, mais on peut faire ça avec une farine complète. Un bon sucre, un sucre moscovado, un sucre complet qui a beaucoup plus d'arômes. Enfin, Raphaël pourra le confirmer. Je tiens à préciser que ce livre n'existerait pas sans l'émission que nous avons faite avec Raphaël et avec Thierry. Un bon sucre et du goût, un sucre donc complet. Ensuite, alors c'est vrai que moi je travaille très longtemps le sucre avec le beurre pour déjà foisonner. Toujours sous l'autorité de Raphaël. Faire en sorte que déjà, d'alléger ce mélange pour avoir à mettre un peu moins de levure.
Foisonner, ça veut dire?
C'est-à-dire intégrer de l'air pour alléger. Et ensuite, alors, il y a plein de recettes différentes. Ce que j'explique, c'est qu'il y a aussi des goûts. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui aiment le cookie un peu croustillant, ceux qui l'aiment plutôt moelleux, voire un peu sous-cuit. Donc là, ça dépend aussi de votre cuisson.
Alors, vous conseillez bon pour des cookies moelleux, mieux vaut programmer le four sur le mode chaleur statique, c'est
oui.
ça?
Oui, alors ça, c'est très important. Ouais. Chaleur statique ou tournante. On a tous vu ça dans notre four. On ne sait pas trop les distinguer. Souvent, on met le maximum, c'est-à-dire tournante. Ouais, on trouve c'est joli, le petit ventilateur qui s'affiche. Et en fait, ça a une incidence colossale vraiment sur la réussite de la recette. Certaines recettes vont avoir besoin de cette ventilation pour monter, notamment le soufflet, par exemple, pour croûter. Et d'autres, au contraire, vont en pâtir et ça va dessécher la préparation.
Et pour des cookies croustillants, on opte plutôt pour le mode chaleur ventilée.
Ventilée, évidemment.
Et vous, Grégory Cohen, votre truc en plus pour des cookies de folie, pour reprendre votre phraséologie dans cette émission?
Moi je travaille alors évidemment ce qu'a dit Julie est évidemment essentiel. Les ingrédients, c'est la base de tout, hein. Le goût, c'est forcément la base de tout, et d'ailleurs ça a une incidence réelle sur notre corps et sur tout ce qui va en découler, hein. Si on regarde même par exemple, juste je fais une petite parenthèse, une poule à qui on va donner du maïs, son jaune va être très très jaune. Si on donne des crevettes à un saumon, la chair du saumon va être très très rose, très orangée. Donc en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas juste quelque chose en l'air quand on dit que les ingrédients sont importants et qu'ils ont une incidence sur notre corps. Ils ont réellement une incidence sur notre corps. On le voit sur ce genre d'animaux.
Et sur votre cookie de folie.
Sur mon cookie de folie, pour revenir. Mais je sais que vous l'aimez bien, ce cookie de folie. Moi, si on n'a pas la capacité de pouvoir avoir accès à une farine de meunier ou quelque chose de spécial.
Il y en a partout en France, hein, par ailleurs. Pas seulement
en
cinéma.
C'est peut-être une question de moyens aussi, et c'est peut-être, ça dépend où les gens où les gens achètent leurs produits. Mais il y a des petits twists qu'on peut faire qui peuvent être rapides. On va travailler généralement sur un cookie avec un beurre pommade, donc un beurre qui a une consistance pommade. On peut intégrer à l'intérieur de ce beurre pommade une saveur, la saveur qu'on veut. On peut mettre de la cannelle, de la vanille, peu importe. Et du coup, on va se retrouver avec un cookie qui va d'un seul coup avoir une saveur qui va être beaucoup plus marquée immédiatement.
Et pour le croustillant, justement, en parlait, un point important sur cette farine, qu'elle soit bio ou pas bio, etc. Mais c'est de très très peu travailler la farine
en général,
pour avoir le en général pour avoir le croustillant.
Toujours autant, la mettre en dernier finalement dans les préparations.
Autant il faut bien, comme l'a dit Julie, il faut bien battre le beurre et le avec le sucre parce que ça fait un intérêt à un foisonnement. Mais si vous commencez à travailler la farine, ça va faire du gluten. Mm-hmm. Enfin, vous allez travailler le gluten. Hein, le gluten était déjà là, mais donc ça va donner de l'élasticité. Tout à l'heure on parlait des brioches. Là, il faut énormément travailler la farine pour créer cette élasticité. Mm-hmm. Au contraire, pour des pâtes sablées ou des cookies ou des choses qu'on veut croustillantes, faut quasiment que la farine ça reste à l'état d'amidon en fait, pas de gluten.
Et peut-être la dernière chose. J'y pense, choisir un chocolat riche en matière grasse. Parce que l'idée dans le cookie, c'est que le chocolat reste un peu fondant quand même.
Hein.
Alors, il ne faut pas non plus que ce soit de la pâte à tartiner. Mais c'est vrai que si on va choisir un chocolat très riche en matière sèche, en cacao, il va rester dur une fois le cookie refroidi. Ce sont des détails, mais il suffit de regarder la composition du chocolat.
Quand il y a 4-5 ingrédients, c'est plus du détail.
Mais c'est vrai. Hein, ce sont des réflexes après. Ouais.
Alors, Anne aimerait confectionner un banoffee, l'un de vos desserts préférés, Grégory Cohen. Et que faire avec des bananes trop vertes, Julien? Andrieux, comment accélérer le mûrissement de la banane verte ?
En l'enfermant avec des bananes.
D'accord, dans un sac plastique.
En les enfermant ensemble ou avec en tout cas des fruits et des légumes qui produisent de l'éthylène, qui est un gaz qui va accélérer le mûrissement. Et de la même façon à la catégorie pommes de terre ou oignons, j'explique qu'il ne faut pas les garder ensemble parce que justement l'éthylène de l'oignon va favoriser le développement de germes dans la pomme de terre. Alors souvent on met tout ensemble, hein, dans la cave ou dans le comment dit-on, garde-manger. Non, il y a des choses qui ne se marient pas.
Raphaël Aumont sur l'éthylène.
Mais Julie a tout dit, c'est parfait. Non, c'est un gaz qui est naturel, en fait, naturellement formé par les légumes et les fruits. Et c'est vrai que ça peut être un moyen d'accélérer les produits. Alors l'agroalimentaire l'a bien compris, parce que du coup, il joue avec ça pour accélérer les choses parfois.
Bon, je vais vous faire un aveu, un grand aveu à 10h23. Je n'ose pas faire de béchamel, de peur de la rater.
C'est possible, ça.
Et aussi de peur de boucher mes artères. Julie Andrieux, aidez-nous à la réussir à coup sûr cette béchamel.
La béchamel, non, c'est vraiment... Alors c'est vraiment simple, mais comme tout ce qui est simple, c'est vrai qu'il faut connaître quelques règles de base. Vous commencez par prendre la même quantité de beurre que de farine, à peu près, ça dépend de la préparation, mais voilà. Vous mettez votre farine de côté, on la met pas dans la casserole tout de suite, on fait fondre le beurre. Dès qu'il est fondu, on rajoute la farine d'un coup. On peut choisir la farine qu'on veut, ça je l'ai appris, je crois, grâce à Raphaël aussi. Ça peut être intéressant d'utiliser une farine de sarrasin pour apporter un goût différent.
Ma mère utilisait de la fécule de maïs.
Oui, sûrement.
Bien sûr, il faut un amidon en fait.
Et surtout, on prend un petit fouet qui va avoir le mérite de séparer les particules de farine et on va laisser quand même la farine cuire un petit peu, la torréfier, sinon on aura un goût de farine qui va se prolonger. Donc il faut, elle doit commencer à roux, doit commencer à roussir, mais pas trop non plus. Roux blond, roux brun, enfin après on peut rentrer dans pas mal de détails, mais on va pas jusque là. Et ensuite on rajoute du lait. Alors a priori on dit, Raphaël tu me diras si tu confirmes, qu'il faut mettre le lait froid sur le roux chaud ou le roux chaud sur le lait froid.
C'est les grands débats, mais ça dépend. Si on va aller vite, il faut mettre lait chaud sur roux chaud, mais au risque de faire peut-être il faut vraiment agiter fortement. Sinon, on peut mettre les froids, effectivement.
Les froids, ça marche très bien. Mais un lait entier, c'est quand même meilleur. Moi, je fais des croque-monsieur avec de la béchamel, ça change tout. Du lait entier et du lait frais. Du lait frais, pas du lait UHT qu'on garde 6 mois dans la cave.
Caroline, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez de la Drôme et vous avez une recette de béchamel, paraît-il.
Oui, extraordinaire, qui a changé ma vie.
dis donc.
Oui, parce que le nombre de fois où ça a raté avant, c'est Jean-Pierre Coff qui a changé ma vie.
Je tiens aussi la recette de Jean-Pierre Coff. Une recette. Bonjour madame.
Bonjour. Et en fait, pour tout simplifier, on met tout ensemble dans la casserole, à feu vif, et tranquillement au fouet, jusqu'à ce que ça s'épaissit.
Et qu'on se régale.
Oui, ça fera... Alors, Julie parlait des roux. Donc là, effectivement, ça fera pas vraiment le roux. Ça fera une béchamel blanche, mais qui peut être intéressante. Maintenant, si vous voulez donner des goûts un peu de torréfié, il faut quand même faire cuire le beurre avec la farine pour créer ces réactions de Maillard et donner un peu plus de goût. Mais effectivement, ça marche très bien. On parlait tout à l'heure des robots. On peut tout mettre dans un robot à 80 degrés, ça va très bien fonctionner.
Mais c'est tellement simple à la casserole. Je suis un peu l'ennemi du robot, robot cuiseur. Mais c'est vrai que Jean-Pierre m'avait dit, moi Jean-Pierre c'est vraiment mon parrain de cuisine, il m'a connu, j'étais tout bébé. Et il me disait, mais enfin on s'emmerde la vie avec la béchamel, c'est vrai on met tout d'un coup. Alors lui je crois de mémoire mettait le lait d'un coup. Mais en réalité j'ai testé, ça fait quand même assez vite des grumeaux, alors qu'on finit par diluer, mais c'est pas... vraiment plus simple. Donc, je suis revenue à la méthode de base. Mais bon.
Merci beaucoup, Caroline, pour votre recette de béchamel. Marion aimerait y voir plus clair sur la différence entre le beurre pommade que vous avez cité, Grégory, le beurre clarifié et le beurre noisette. Julien Drieux, beurre pommade.
Ah, c'est très différent. Bah, beurre pommade, Grégory en a parlé, c'est un beurre qui est mis à température, qui a la texture d'une pommade. C'est vrai qu'une fois le beurre fondu, il retrouvera jamais sa texture et même son goût laitier. Donc ça, c'est important de le savoir. Vous disiez ensuite beurre clarifié. Alors, beurre clarifié, c'est ce que les Indiens appellent le ghee. Ils ne cuisinent quasiment qu'à ça. On le retrouve aussi dans la cuisine marocaine. C'est un beurre qu'on va faire fondre et ensuite on va retirer le petit lait, la caséine, qui elle brûle à une certaine température. Et je crois que le beurre clarifié peut être porté à 200 degrés, alors que le beurre non clarifié va pas au-delà de 100 degrés. C'est ça,
exactement.
Il brûle assez vite.
C'est la partie grasse du beurre clarifié. En fait, c'est de l'huile presque. Donc c'est de l'huile pure. Donc effectivement, elle porte à haute température parce que y a rien qui va brûler à l'intérieur. Mais tout l'intérêt de garder les protéines, les caséines, c'est elles qui vont coaguler correctement et commencer à brunir et créer des goûts et le fameux beurre noisette.
Alors le beurre noisette,
et c'est ça. C'est exactement ça, c'est les réactions de Maillard, parlons-en. C'est justement ces protéines qui vont commencer à chauffer, à devenir brun, à dégager des nouvelles saveurs, des nouvelles molécules aromatiques. Et là, c'est tout l'intérêt de ce côté noisette, mais non brûlé.
Grégory. Oui, c'est exactement ça. En fait, le beurre a un goût qui est lié à ses protéines laitières, à la caséine. Et effectivement, quand on commence à le porter à température, donc il va avoir différentes étapes. Il va fondre, ensuite il va être mousseux, ensuite il va devenir donc mousseux. Bah, c'est clair. En fait, tout ce qu'on dit en cuisine, finalement, c'est vraiment que du bon sens. Pratiquement, quand on dit va fondre, bah il fond. Quand on dit les pommades, en réalité, il est pommade. Et quand on dit qu'il est mousseux, il est mousseux. Et puis à un moment, il va devenir noisette. Et en fait, c'est là où la coloration va s'effectuer. Là, il faut faire très attention parce qu'entre le noisette et le brûlé, il y a que quelques secondes. Et à ce moment-là, on le retire du feu. Il ne faut pas hésiter à retirer du feu et à intégrer quelque chose qui s'appelle le choc des températures pour refroidir rapidement la matière. Parce que même quand on retire du feu, la poêle est toujours chaude, la matière grasse est toujours chaude. Donc
plonger le cul de la poêle ou de la casserole dans de l'eau froide, par exemple, c'est ça.
On peut faire ça ou on peut intégrer, par exemple, si on veut tout de suite faire cuire ou donner ce goût de beurre noisette, par exemple, à des croûtons de pain, si on veut avoir des croûtons de pain au beurre noisette, mettre tout de suite nos croûtons de pain qui sont froids. Il va y avoir un choc des températures entre le beurre et les croûtons de pain qui vont arrêter la cuisson.
Alors, du beurre, il y en a en quantité dans tout cake qui se respecte. Quels sont vos conseils, Julien Drieux, pour les réussir à coup sûr?
Ah, les cakes. Alors, moi, j'utilise des moules en fer, en téflon, en aluminium et non pas un moule en verre ou en porcelaine, comme
pourquoi
nos grands-mères. Bah, parce que ça va faire croûter la surface. C'est quand même ce qui est agréable dans le cake, c'est ce rapport de texture entre le moelleux de l'intérieur et le côté un peu saisi de l'extérieur. Ensuite, alors, l'éternelle question qui revient, c'est comment faire pour que mes dés de fruits confits ne tombent pas au fond de mon cake.
Alors
bon, on dit qu'il faut les fariner, c'est vrai que ça aide. On dit aussi justement qu'il faut utiliser un beurre pommade plutôt qu'un beurre fondu, parce que du coup, la pâte sera plus dense, et évidemment, logiquement,
c'est
ça. Et puis surtout, enfourner le cake dans un four très chaud, quitte à le baisser après,
180,
pour saisir, carrément 200 dès le départ, et ensuite on va baisser, mais pour saisir la pâte, toujours dans cette manière. Et je reviens sur les fruits confits, ça c'est important. Je dis le chiffre au hasard, mais je pense que je suis pas loin. Peut-être 80 ou 90% des fruits confits que l'on achète en supermarché, il faut bien le dire, ce sont des morceaux de navets colorés. Donc il faut vraiment aller chez un confiseur. C'est un petit peu cher, mais c'est un produit exceptionnel, surtout au moment des fêtes.
C'est pour ça que je préfère les raisins secs. Julien Drieux, vous êtes
adepte. C'est divin, les fruits confits. Et puis on a d'excellents confiseurs chez nous.
Vous êtes adepte du sirop de citron sur un cake au citron,
Oui, c'est ça. Alors l'idée étant de faire un sirop de sucre. Donc on met deux fois plus d'eau que de sucre. Bon, là, on laisse fondre et après on rajoute un jus de citron, et on va enduire le cake une fois sorti du four, encore chaud, parce que c'est comme la pomme de terre, pour assaisonner les pommes de terre pour une salade par exemple, il faut vraiment qu'elles soient encore chaudes pour qu'elles absorbent. Vous voyez comment je fais le bruit de la pomme de terre? Et le cake, c'est pareil, donc il faut qu'il soit encore chaud, et on va le laquer, le lustrer. Dans tous les pays méditerranéens, ils font ça, ils savent pas ce que c'est que de servir un gâteau qui soit pas enduit de sirop, et c'est assez divin.
Et pour une bonne recette de cake, je renvoie à la vidéo du cake au citron de François-Régis Gaudry sur l'appli et le site de France Inter. Est-il vrai que le cake est meilleur consommé quelques jours après sa cuisson, Julien Drieux?
Je le tiens de Pierre Hermé. J'ai eu la chance de partager pas mal de temps avec Pierre Hermé en
grand
cuisine.
Grand pâtissier parisien.
On a, voilà, nous avons réalisé un livre ensemble et beaucoup des astuces de ce livre aussi sont issues de ces échanges. Et Pierre, alors lui, il va loin. Il me dit, ah non, on ne consomme pas un cake avant 3-4 jours. Alors, je ne sais pas ce qu'il met dans ses cakes, mais c'est vrai qu'on a besoin d'un certain racisme. Il ne faut pas avoir peur mature, du terme. Hein, ça, le foie gras aussi, rassis. Bon.
Et les macarons aussi, d'ailleurs.
Hein. Ouais, et les macarons aussi, c'est meilleur après quelques jours. Et le cake aussi. Alors bon, il faut bien le conserver pour pas qu'il sèche, mais c'est vrai.
Et je cite Pierre Hermé, le temps qu'une osmose se crée entre les ingrédients et qu'elle confère au goût toute sa plénitude. Allez, restez c'est avec nous. Dans quelques instants, vous réussirez à coup sûr votre dinde ou votre chapon de Noël. Et on écoute Boris Vian.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Boris Vian, la complainte du progrès.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi. Sur France Inter.
10h34, nos experts partagent quelques astuces pour mieux cuisiner au quotidien. 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Maïté, vous m'avez dit qu'aujourd'hui on allait faire la fête.
Oui.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Un hamburger rayonné. Là, j'ai fait revenir mon foie gras, mes magrets.
Légez-y avant qu'on ait déjà installé sur de la jolie salade.
Ça va de soi, il faut une salade.
Voyez, alors là j'ai mis suffisamment d'œufs pour absorber la totalité de la farine.
Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon.
Et je travaille cela ensemble.
Ça nourrit.
Ça nourrit son homme.
Légèrement.
Ça me paraît bien épais.
Non, épais, non. Non, non. Nous avons simplement... C'est un appareil, c'est exact. Non, non. C'est un appareil à crème.
Après, il faut des secs. Il faut du basilic, si on n'en a pas du frais, donc on a mis du sec.
Eh bien oui,
mais il a un bon parfum quand même. Il faut du thym, il faut de l'ail, il faut du persil, il faut des tomates, et puis c'est tout.
Je trouve que ce sont les liqueurs à base d'herbes qui se comportent le moins bien au feu.
Ah bon?
Et maintenant, je vais sortir les morceaux nobles.
Oui.
Voilà. On va faire, c'est l'armagnac.
Ah!
Je vais flamber les morceaux.
Pas de casserole, il faut pas.
Voilà, il faut pas la mettre.
et ça l'aide à cuire.
Là, et ça va finir de les dorer un petit peu. Ça va leur donner un bon grésillard, là. Regardez.
Il y a pas un plat qui porte ce nom-là?
Si. Il faut remarquer que le plat qui s'appelle un chaud-froid est toujours froid.
Voilà.
Écoutez, il est l'heure de manger.
Ah ouais, mon frère.
Ça fait 2 heures qu'on est là, il y a du vent, ça met un appétit.
Bon appétit, Catherine.
Ah, bon appétit, tout le monde.
Medley signé par notre réalisatrice Claire Destacan, qui écoute avec beaucoup d'attention ce matin vos trucs et astuces. Julie Andrieux, Grégory Cohen et Raphaël Aumont. Raphaël Aumont, j'ai repéré quelques astuces de grand-mère dans votre BD Les Aventuriers de la Cuisine. Une astuce de grand-mère veut qu'il faut mettre des coups de fourchette dans la pâte à tarte pour l'empêcher de gonfler à la cuisson. C'est vrai ou pas?
Alors ça, c'est beaucoup ce qu'on entend, effectivement. Et alors, si on veut pas, d'abord, on va donner la vraie solution. C'est-à-dire que si vous voulez pas que ça gonfle, bah, vous mettez des petites lentilles ou un papier ou des petits grains comme ça pour éviter éventuellement cette pression qui fait que la pâte gonfle. Alors après, l'astuce des pics ou des coups de fourchette, c'est dramatique parce que vous trouez la pâte. Et donc après, du coup, la préparation va couler dans la pâte, va accrocher dans le moule et c'est juste catastrophique. Et au contraire, ça va aider le liquide à rentrer dans la pâte et à la ramollir. Donc c'est du non-sens.
Alors moi j'ai une petite astuce, tu as tout à fait raison évidemment, mais c'est surtout d'abaisser la pâte, déjà de la préparer la veille, ça change tout, pour la raison que tu as évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que ce gluten qu'on a travaillé va se détendre, se reposer, moi je le dis avec mes termes, et du coup pâte ne va pas se rétracter,
aussi,
ce qui est encore un autre problème, on a tous connu ça quand on fait un peu de pâtisserie, donc on prépare la pâte la veille, on l'étale, on la met dans le moule, et ne pas dire on fonce le moule, voilà, et ensuite on met ce moule avec la pâte au congélateur. Petit truc de Pierre Hermé aussi, pendant au minimum 15 minutes, on peut le mettre plusieurs heures avant, et ensuite on va enfourner la pâte congelée dans un four, alors de mon expérience, pas trop chaud. C'est justement ce choc de température avec un four très chaud qui va faire gonfler la pâte, 150, 160, mais longtemps, pour une cuisson vraiment à cœur, et ça bouge pas, sans coup de fourchette.
Exactement.
Isabelle, tiens, nous demande comment faire pour que le dos de la madeleine soit bien gonflé. Julie Andrieux, je rappelle que vous publiez A comme astuce, mon abécédaire de la cuisine.
C'est vrai, et on parle des madeleines aussi. Alors moi, j'essaye de préparer la pâte un peu à l'avance, quelques heures, voire la veille, et j'ai remarqué que ça gonflait mieux, cette fameuse osmose qui se produit entre les ingrédients. Il faut que la pâte soit froide aussi, choc de température.
Et là, oui, effectivement, et là, dans la madeleine, il y a souvent de la levure chimique, donc là, au contraire, il faut qu'elle agisse rapidement et qu'elle gonfle d'un coup, et donc là, c'est Thierry Marx qui nous avait enseigné ça avec Julie dans son émission. Thierry parle souvent de cuire à gradient descendant, c'est-à-dire on enfourne dans un four bien chaud et on baisse. Et là, du coup, bah, ça va descendre d'un coup, ça gonfle, ça colore et ensuite ça va cuire à cœur en prenant son temps.
Raphaël Aumont, est-il vrai que pour fixer la couleur des haricots verts ou des petits pois, c'est encore une astuce de grand-mère, il faut plonger ces haricots verts, ces petits pois dans de l'eau glacée juste après la cuisson? Moi, je l'ai vu dans plein d'émissions de cuisine.
Et beaucoup de chefs le font encore.
Et on continue à l'enseigner dans les grandes écoles. Ah oui, alors en fait, on a fait les tests et ça, les glaçons, ils stoppent la cuisson. Point. C'est tout.
Ce qui est pas mal déjà.
Ce qui est très très bien et c'est indispensable. Mais ils vont surtout pas fixer la couleur. La couleur, les chlorophylles, et pas la chlorophylle d'ailleurs, si on veut être rigoureux. C'est des molécules qui sont sensibles à l'acidité, etc. Mais ils vont se dégrader avec la chaleur excessive. Mais donc c'est pas le froid qui va faire que le pigment vert reste bien vert.
Ce que je trouve génial dans le travail de Raphaël et de Thierry Marx, c'est qu'ils font un truc personne n'a pensé à faire. C'est simplement tester. C'est incroyable de se dire que ça fait des générations qu'on reproduit les gestes sans se poser la question, le fameux pourquoi.
Oui, c'est ça.
Grégory Cohen.
Mais alors, c'est pas complètement faux quand même.
Ça bloque le...
C'est-à-dire que dans la mesure où, en fait, plus on va le faire chauffer, plus la chlorophylle va partir et plus le haricot va être terne. Une fois qu'on a réussi à avoir la cuisson qu'on veut de notre haricot, là, on le retire et en fait, effectivement, le glaçon, l'eau froide, ça stoppe immédiatement la cuisson. Donc, du coup, ça empêche plutôt le produit vert, la chlorophylle, de partir, de déteindre. Donc c'est un vrai faux, ça coupe la cuisson et du coup ça maintient la couleur qu'on voulait.
On ne peut plus continuer comme avant, c'est-à-dire cuire à l'anglaise, alors on prend 80 litres d'eau pour une poignée de haricots, ensuite il faut des glaçons qu'il a fallu congeler, donc ça coûte de l'énergie, puis encore un seau d'eau et de glaçons. Non mais c'est un truc de dingue parce qu'on parle de développement durable, de cuisine responsable, et là il y a un moment il faut qu'on vienne aussi se dire peut-être que cuisson à l'anglaise ça n'a plus de sens. Donc,
mais quand tu parlais de gradient descendant, c'était le four banal.
Bon sens.
Du les villages, c'est ce qu'on faisait. Tout le monde apportait les plats et on cuisait dans la chaleur résiduelle du four, finalement.
Voilà, c'est ce qu'on dit avec Thierry. Thierry, il a une encyclopédie chez lui, là, je ne sais pas combien de bouquins de cuisine, des très très vieux ouvrages, et on passe son temps à relire et à tester. Et donc, les haricots, on sait que ça cuit à 80 degrés. Donc, cuisons correctement à 80 degrés dans de l'eau gazeuse. Et là, ça va garder le vert. Et une poignée d'haricots, un verre d'eau, et ça suffit.
Ah, ben voilà un truc, cuire dans de l'eau gazeuse.
Exactement. Bon. Voilà.
Alors, faut-il taper fort sur la viande pour l'attendrir, de préférence avec un rouleau de pâtisserie, Raphaël Aumont?
Alors ça, on s'est fait plaisir dans ce bouquin, justement, la BD, on a pris une petite grand-mère là qui est très drôle et qui raconte tout et n'importe quoi, en fait. Mais alors, vous parlez avec des chefs ou alors des producteurs, des éleveurs, ils vous parlent d'une viande qui a été sélectionnée, et puis d'un coup, vous allez dans votre cuisine et vous la massacrez à coup de... Ah, mais c'est ça? On s'est dit, mais comment ça se fait que vous faites ça? Donc,
c'est
là
pour
encore...
une escalope de veau, quand même, qui l'aplatit. Ouais, ouais, ça, on est d'accord.
Mais voilà, exactement, pour un cordon bleu maison, des choses comme ça. Mais sinon, pour attendrir une viande, là encore, une marinade un peu à l'eau gazeuse fonctionne très très bien, un peu de bicarbonate.
Grâce au bicarbonate.
Exactement.
Moi, je me souviens d'une phrase de Thierry Marx qui fait ma joie, parce que évidemment, à travers les carnets de Julie sur France 3, je promeus la tradition, les terroirs. Et Thierry, un jour, me dit, mais de toute façon, la tradition est la mère de l'ignorance. Faut la sortir, celle-là, en France, quand même. Et il n'a pas tort. Mais sur beaucoup de choses, il n'a pas tort. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas énormément de bon sens dans la tradition.
Et on peut attendrir la viande donc avec du bicarbonate, avec du jus d'ananas ou de papaye, c'est ça?
Oui, grâce aux enzymes qui sont présentes dans le jus d'ananas.
C'est ouais, comment agit ces ciseaux? Ces enzymes-là sont magiques parce que ça fait comme des petits ciseaux et ça vient couper comme ça les protéines à certains endroits. On dit par exemple que l'ananas brûle les graisses. L'ananas brûle les protéines, mais pas les graisses, par exemple. Et la papaye, ça vient de... Quand on traduit en indien, ça veut dire papaïne, ça veut dire donner des coups de marteau. Donc ils avaient compris justement que ce jus de papaye va couper entre guillemets la viande et la déliter tendrement.
Julie Andrieux, quand on saisit une viande au grill ou à la poêle, pourquoi faut-il bannir le conseil habituel, laisser cuire X minutes de chaque côté? Il faut saisir rapidement, c'est ce que vous expliquez dans votre livre ou...
Oui, bah, ça dépend de tellement de facteurs, ça dépend de votre ustensile de cuisson, de son épaisseur, ça dépend de l'épaisseur de la viande elle-même, ça dépend du type de viande.
Enfin, est-ce qu'elle était sortie avant au frigo ou pas? Est-ce que, voilà,
exactement, ça c'est très important, laisser... ça c'est peut-être un conseil universel, sortir la viande du réfrigérateur.
Exactement, voilà,
pourquoi?
C'est ça. Bah parce que sinon vous allez créer ça va être trop froid à l'intérieur, ça va brûler à l'extérieur, ce sera pas encore bien cuit, alors que et puis il faut toujours aussi laisser le sang etc qui sont dans la viande, il faut les laisser tranquillement se reposer, et de la même façon qu'une fois qu'on a cuit une viande, il faut souvent la laisser reposer pour éviter qu'elle crache tout son
c'est vrai que c'est absurde de cuire une viande froide parce que forcément elle ne va pas assez chauffer à l'intérieur, elle peut rester crue à l'intérieur et elle va être surcuite à l'extérieur. Là j'étais en Espagne il y a 15 jours et ils m'ont servi une chuleta. La chuleta, c'est la côte de bœuf, on pourrait dire, l'équivalent, mais absolument sublime, à tomber. Et je suis allée en cuisine, je dis, comment vous faites un truc pareil? Et alors, c'est peut-être pas très hygiénique, mais il me dit, je sors ma côte de bœuf 24 heures à l'avance du réfrigérateur. Alors, il la met, je sais pas quoi, sous cloche. Mais ça fait toute la différence. Il y a ce phénomène de rassissement qui est vraiment indispensable dans la maturation des goûts.
Julie Andrieux, vous salez avant ou après la cuisson, votre viande?
Oh, gros débat, énorme gros débat de la cuisine française. Moi, je sale juste avant. Alors là, je le tiens d'Alain Ducasse qui dit, en tout cas pour ce qui le concerne, le chef Alain Ducasse, bien sûr, le sel va apporter quand même vraiment un goût différent quand il est intégré à la croûte, entre guillemets, de la viande. Si on rajoute après, ce sera différent, mais on n'aura pas ce côté croûté du sel. Alors, effectivement, il est dit, je ne sais pas ce que tu en penses ou ce que vous en pensez, les chefs, que si on sale longtemps avant, quelques heures avant, ça va faire sortir les jus, le sang de la viande, je ne sais pas.
Il faut plusieurs heures pour que ça sorte vraiment, en fait. On a fait les mesures. Ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, effectivement, c'est que le sel va réagir avec la réaction de marée, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et après, pour le goût, je pense que ce qui est sympa, même en tant que consommateur, c'est d'avoir ces petits cristaux qui viennent croquer et qui viennent donner cette espèce, c'est pas un exhausteur de goût, le sel, ça c'est encore notre débat, mais au moins il se passe quelque chose en bouche.
Grégory Cohen. Ouais,
il y a différents types de cuisson, on peut cuire à l'acide, on peut cuire au sel, on peut cuire au chaud. Avant de cuire au sel, il faut effectivement pas mal de temps, donc il y a absolument aucune contre-indication à saler sa viande avant de la faire cuire, évidemment. Il y a aucun souci là-dessus.
Alors pendant les fêtes, vous serez nombreux à mettre sur la table de la dinde ou du chapon. Comment réussir une dinde au four? Comment faire pour qu'elle soit le moins sèche possible, Julie Andrieux?
Alors moi, j'ai le souvenir d'avoir aussi eu la chance de rentrer dans les cuisines de Guy Savoie, et Guy me disait, alors c'est pas compliqué, tu prends la dinde, je crois que c'était un chapon, tu lui colles deux énormes plaques de beurre bien froid sur les flancs, tu mets ça au four doux, ça c'est très important, donc 150 maximum, et t'arroses, tu laisses cuire pendant 3 heures, tout dépend du poids de la volaille évidemment. C'est pas pas si bête. Il y a deux options. De toute façon, four doux, c'est évident si on ne cuit qu'au four. Sinon, on poche, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va plonger la grosse volaille. Ça n'est valable que pour les grosses volailles. Pour un poulet, ça n'a pas vraiment d'atout. On poche d'abord pendant une vingtaine de minutes. L'idéal, en fait, c'est de faire comme les grands-mères. On porte à ébullition. On coupe, on laisse retomber l'ébullition, on plonge la volaille dedans et on l'oublie pendant 20 minutes. Déjà, on aura un bon bouillon de volaille avec lequel on va pouvoir ensuite cuire nos marrons, etc. Et après, on fait rôtir la volaille. Et Thierry Marx m'avait donné un super conseil qui est de farcir la volaille, non pas avec de la farce à la viande, parce que la farce ne cuira pas, ça va donner du gras et ce sera pas joli en présentation, mais en revanche de mettre des légumes préalablement bouillis, parce que ils vont développer de la vapeur par l'intérieur de la bête et donc cuire la bête par l'intérieur également grâce à cette vapeur.
Grégory Cohen.
Oui, il y a 50 milliards de façons en fait d'y réfléchir. Effectivement, quand on commence à juste se poser les bonnes questions, on se rend compte que une dinde, c'est en fait un coffre et qu'à l'intérieur il y a un trou. Effectivement, ça va faire de la vapeur dès qu'on met quelque chose dedans. Moi, je personnellement, ce que je fais, c'est que je fais un beurre avec un goût. Donc, je peux faire un beurre aux noisettes, je peux faire un beurre aux champignons, un beurre aromatisé, et ensuite. Je le mets sous la peau, j'en mets une belle quantité, de manière à ce que ça imprègne à la cuisson et que ça permette à la peau aussi de croustiller. Donc on a cette tendresse à l'intérieur et ce croustillant extérieur. Évidemment le bouillon si on a une grosse dinde, mais si on a une dinde pour quatre personnes, c'est ça va au four directement sans problème.
Dernière astuce utile quand même, si vous avez la possibilité d'acheter une sonde, c'est un thermomètre avec un pic qui permet de prendre la température à cœur. C'est pas très cher, c'est quand même assez utile aujourd'hui quand on se pique de faire un peu de cuisine. Vous plantez la sonde dans le flanc, enfin le blanc, quand ça commence à cuire, bien sûr, de la volaille, et pour une dinde ou un chapon, je crois que c'est à peu près 70 degrés. Ouais. Quand le blanc est à 70 degrés, vous le programmez, ça sonne et vous coupez la cuisson. C'est quand même très simple. Hein.
Véronique nous écrit, une de mes amies américaines cuisait sa dinde de Thanksgiving de cette façon. Elle enfournait sa dinde enveloppée dans du papier alu 24 heures à 100 degrés, puis elle a enlevé le papier alu et monté la température du four pour la faire dorer une bonne demi-heure avant de servir. Je n'ai jamais mangé de dinde aussi fondante. Et nous accueillons Marie-Jo. Bienvenue Marie-Jo.
Merci.
Vous appelez des Pyrénées.
Je vous appelle des Pyrénées.
De chez moi. Voilà.
Voilà, il y a eu beaucoup de neige.
Bah, très bien.
Bonjour Marie-Jo.
Bonjour.
Marie-Jo, alors, votre question.
Écoutez, je ne suis pas trop mauvaise cuisinière, mais je ne réussis jamais mon pot-au-feu de bœuf. Ah. Il est dur, je le mets à l'eau froide, je le mets à l'eau chaude, je change le morceau. Oh. Il est dur, on dirait un morceau de tissu.
Moi, je dirais changer de boucher.
Ah non, j'ai essayé plusieurs bouchers aussi.
Et la durée de cuisson?
Mais je ne sais pas.
Ah. Qu'est-ce que vous conseillez, tiens, à Marie-Jo pour réussir son pot-au-feu, Julien Drieu?
Oui, ça dépend des morceaux déjà. Ouais. Hein, vraiment le temps de cuisson, mais en général quand même, c'est un temps de cuisson long et surtout
très long.
Toute petite ébullition. Hein, ouais. C'est vraiment un frémissement.
Mais il faut déliter ce fameux collagène, c'est ça qui est responsable de la dureté de la viande. Ouais. Et la petite astuce, on y revoit.
C'est quoi l'astuce pour Marie-Jo? Qui vous écoute avec beaucoup d'attention.
Dans ce cas, je lui conseille de mariner dans de l'eau froide un peu ses morceaux de viande avec une cuillère à café de bicarbonate. Dans 3 litres d'eau. D'accord. Voilà. On attend au moins 2-3 heures. Ça va commencer à attendrir et attaquer cette viande. Et ensuite, on la cuit, effectivement, comme l'a dit Julie, vraiment avec un frémissement, mais au moins 2-3 heures facilement. Ça prend du temps.
Et peut-être changer de morceau, essayer la joue de bœuf, par exemple, qui est un morceau, effectivement, qui nécessite une cuisson longue, mais qui est très tendre à l'arrivée et qui ne peut pas être autrement que tendre.
Et dans votre livre, Julien Drieu, je repère cette astuce suivante pour éviter d'assécher la viande. Ne montez pas le bouillon à plus de 95-100 degrés, sinon la viande risque de s'assécher. Taillez la viande cuite en tranches fines pour couper les fibres et rendre la viande moins sèche et plus moelleuse en bouche.
Oui, tout simplement. Effectivement, une fois la viande cuite, on va la couper en tranches assez fines. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus de ça? Disait Grégory, parfumer aussi. Mmh. Parfumer le bouillon avec, pourquoi pas, du gingembre. On peut mettre pas mal de choses différentes. On peut cuire. Alors moi, j'aime bien cuire les légumes à la vapeur parce que, comme tu l'as dit, certes, ils vont communiquer leur goût au bouillon, mais enfin le bouillon c'est bien, mais c'est pas non plus, il n'y a pas que ça dans le pot-au-feu, donc les cuire au-dessus, en profitant de la vapeur qui s'échappe pour cuire les légumes à la vapeur.
Et vous conseillez également, Julien Drieu, de saisir les viandes à la poêle pour bien les dorer avant de les couvrir d'eau tempérée.
L'a vu ensemble avec Raphaël et Thierry Marx.
Ça empêche d'écumer par la suite.
C'est-à-dire qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui mettent la viande à froid, enfin dans une eau froide, et ceux qui mettent la viande à chaud. On vous explique que quand vous mettez la viande à froid, ça va favoriser le développement du goût du bouillon, en revanche peut-être au détriment détriment de la viande, etc. Finalement, on a trouvé un entre-deux. Poêler, saisir la viande avant et ensuite, justement, la mettre dans un bouillon froid.
Grégory Cohen.
Ouais, pour le pot-au-feu, en fait, la réalité, c'est qu'il faut vraiment qu'on choisisse les bons morceaux, en fait. Ceux qui ont vraiment du collagène, ceux qui sont tendres.
Par exemple
Le paleron, le gîte, le plat de côte, la queue. Il y a plein de morceaux comme ça qui ont beaucoup de collagène. Et du coup, ça va nous permettre de les travailler. Ce qu'il faut aussi intégrer dans son pot-au-feu, c'est de pas cuire les légumes en même temps que la viande. Parce qu'il y a des durées de cuisson qui sont pas les mêmes. Même dans les légumes, il y a des durées de cuisson qui sont pas les mêmes. Plus c'est dur, plus le légume est dur, plus la cuisson va être longue, plus il est mou, plus la cuisson va être courte. C'est un truc super simple, mais le poireau va cuire beaucoup plus vite que la carotte, par exemple.
Marie-Jo, j'espère qu'on aura répondu à votre question.
Oui, je vous remercie beaucoup. je vais essayer. Voilà.
Merci beaucoup. On vous laisse dans les neiges pyrénéennes. Merci d'avoir appelé France Inter. Restez avec nous dans quelques instants. Nos invités vous diront comment réussir un soufflet. On n'ose jamais faire un soufflet, hein ?
Ouais, c'est dommage.
Allez, en attendant, on écoute Wet Leg qui interprète Wet Dream. J'adore Wet Leg, interprété Wet Dream.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h54, nos experts partagent quelques astuces pour mieux cuisiner au quotidien. 01 45 24 7000.
Le soufflet désignait au départ un degré de cuisson du sucre. Après avoir trempé une écumoire dans un sirop et soufflé à travers les trous, les bulles d'air devaient prendre la forme de flocons, tout en légèreté, si bien qu'au 19e, le mot soufflé fut employé pour qualifier une préparation cuite au four qui gonflait comme si on la soufflait. Une création culinaire portée haut la main par Antoine Beauvillier, célèbre restaurateur qui ouvrit le premier véritable restaurant parisien en 1782. Et c'est là que le restaurateur y proposa quelques années plus tard sa seconde invention, le soufflé. Un soufflé non pas au fromage, comme on le connaît maintenant, mais à la pomme de terre. Rond, aérien et léger, ce soufflé deviendra un classique, décliné en sucré ou en salé, mais toujours dégusté comme un plat synonyme de progrès.
Extrait des carnets de Julie diffusé sur France 3. Julie Andrieux, on vous a sous la main. Comment réussir,
je vous en prie.
Comment réussir un soufflé à coup sûr? S'il vous plaît,
Julie
Andrieux.
C'est vrai que c'est un vrai sujet, en tout cas pour la cuisine française. Alors moi, je donne ma recette familiale de soufflé au comté, parce qu'il y a beaucoup de recettes dans le livre. Il y a plein d'astuces. Alors, Michel Guérard, joliment et poétiquement, disait qu'il fallait beurrer le moule avec un pinceau dans le sens de la hauteur pour induire la cuisson. Bon, j'ai du mal à croire, mais j'aime bien l'idée.
Alors,
tu vas me dire aussi, on m'avait dit qu'il fallait pas trop monter les blancs en neige pour leur laisser la possibilité de continuer à gonfler, à s'expandre. Ensuite, je regarde pendant que je vous parle, parce que j'ai tellement d'astuces. Poser sur la sole du four, en tout cas sur une plaque et non pas sur une grille, parce que ça pousse par le bas. Il faut que la chaleur vienne du bas. Donc, il faut un contact avec vraiment un élément très chaud. Éviter d'ouvrir la porte du four. Bon, ça paraît élémentaire, on vous l'a tous dit, mais là, c'est vrai. Pas comme les règles quand on fait la mayonnaise, là c'est vrai. Peut-être mélanger d'abord des bons fromages. C'est vrai que un bon soufflé, il faut qu'il ait du goût, c'est quand même dilué par pas mal d'ingrédients, donc un bon comté bien affiné mais pas trop non plus, ça sert à rien de prendre un comté 36 mois. Moi je rajoute toujours un peu de parmesan parce que je trouve que ça corse un peu, ça ajoute un petit peu d'acidité. Et puis intégrer la béchamel tiède, ni trop froide ni trop chaude. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous pouvez alors après souffler sucré, vous pouvez préparer les soufflés sucrés à l'avance en faisant une meringue dans laquelle un blanc d'œuf dans laquelle on va rajouter du sucre cuit, ça ne bouge pas et ça reste au réfrigérateur, ce qui est vachement pratique. On n'a plus qu'à enfourner avant de servir.
Grégory Cohen.
Moi, j'ai toujours cette vision du soufflé. Alors, ça va vous paraître un peu bébête, mais je me dis toujours que ce soufflé, il essaie de grimper aux parois et qu'il faut l'aider à grimper aux parois, en fait. Donc, effectivement, du beurre et aussi de la farine quand il s'agit d'un soufflé salé. On enlève l'excédent de farine parce que la farine, elle va l'aider justement à grimper à ses petites parois. Et quand on est sur du soufflé sucré, du beurre et du sucre, pour exactement la même raison, et ça va en même temps permettre de faire une petite caramélisation autour du soufflé.
Le regard du chercheur en physique et chimie, monsieur.
C'est mignon. Ouais. Non, alors le truc c'est un vrai challenge parce qu'un soufflé, donc l'air est mille fois plus léger que la préparation qu'on essaye de faire souffler. Donc c'est un vrai défi. C'est pas stable. Alors il y a plusieurs astuces. C'est-à-dire que l'idée ça va être de faire un réseau un peu de protéines, que ça fasse tenir ces bulles d'air qu'on a voulu mettre dedans. Et en fait pourquoi le soufflé souffle, c'est pas tellement ces bulles d'air qui se dilate dans le four, c'est l'eau qui va passer à l'état vapeur. Et donc effectivement, comme l'a dit Julie, il faut démarrer sur vraiment le sol. La sole chaude
du four,
justement là, voilà la plaque du four, enfin voilà ça pour initier justement cette évaporation de l'eau. Et aussi on pourrait même passer presque au chalumeau ou d'abord la croûte du soufflé pour faire comme une espèce de couvercle, et ensuite ça peut pousser. Et ensuite surtout il faut chauffer tout doucement, et avec l'astuce qu'on donne souvent avec Thierry aussi, c'est de cuire, on peut cuire au bain-marie d'abord un soufflé pour préparer cette cuisson, et ensuite on termine au four.
Dernière question de Patrick, réponse rapide: pourquoi mettre un peu d'eau avec les œufs avant de les battre en omelette?
Je pense que ça dilue les protéines. Il y a beaucoup de protéines dans un œuf. Il y en a presque trop, on va dire. Donc, si on veut attendrir une omelette, on peut rajouter de l'eau, et autant dans ces cas-là prendre de l'eau aromatisée, un bouillon, un jus. Regardez par exemple les omelettes tamagodashi, par exemple, au Japon. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez la souplesse, ça tient, et en plus, vous apportez du goût.
Et si on veut une omelette très très aérienne, on peut séparer ces jaunes de ces blancs, on monte ces blancs en neige, et puis après on incorpore ces jaunes battus dedans, et on aura une omelette façon mère brasier qui sera assez sympa.
Moi j'ai le souvenir de Bernard Loiseau qui cuisait ses œufs au plat avec juste un peu d'eau, et pas de beurre. Il disait en fait le beurre n'apporte rien, juste un peu d'eau, ça va éviter à l'œuf d'attacher.
Merci beaucoup Julie Andrieux d'être venue, je recommande vraiment à comme astuce, c'est passionnant, mon abécédaire de la cuisine, c'est publié chez Robert Laffont. Merci Raphaël Aumont. L'expo Banquet, c'est actuellement à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Et votre BD, Les Aventuriers de la Cuisine, c'est chez Dunographique. Merci beaucoup Grégory Cohen. Votre restaurant éphémère Temporalité ferme dimanche. Merci. Demain, grand bien vous fasse, loisir.